Et après, l'idée de la nuit par Vassili Grossman, la nuit des idées organisée par France Culture, où il va être question notamment de l'ordinateur et d'intelligence artificielle. Les machines vont-elles finir par surpasser physiquement et intellectuellement les humains? Grand épouvantail, le perfectionnement de l'intelligence artificielle est l'objet de nombreux fantasmes, renforcés dans l'opinion notamment par les performances d'AlphaGo, Zero et Todai, deux programmes d'intelligence artificielle respectivement capable de battre le champion du monde de jeux de Go et d'obtenir de meilleurs résultats que 80% des candidats au concours d'entrée à l'université de Tokyo. Bonjour Jean-Gabriel Ganassia, vous êtes professeur d'informatique à Sorbonne Université, chercheur en intelligence artificielle au laboratoire informatique de Paris 6 et président du comité d'éthique du CNRS. Vous avez notamment publié en mars dernier le mythe de la singularité. Faut-il craindre l'intelligence artificielle? Et puis le temps des robots est-il venu? Avec tout d'abord peut-être une définition, parce que l'intelligence artificielle est aujourd'hui au cœur de l'actualité et finalement on a du mal à savoir ce que c'est.
Bonjour, l'intelligence artificielle c'est une discipline scientifique qui a pour but d'étudier l'intelligence avec des machines. Alors comment est-ce qu'on fait? On ne sait pas très bien ce que c'est que l'intelligence, sinon on ne ferait pas d'intelligence artificielle. Mais on décompose et on suppose que l'intelligence est décomposable en fonctions cognitives élémentaires, la mémoire, le raisonnement, la perception. Et l'hypothèse régulatrice de cette discipline scientifique, c'est que ces fonctions élémentaires peuvent être elles-mêmes décomposées en modules si simples qu'une machine peut être construite pour les simuler. Et c'est cette idée qui a été émise il y a un peu plus de 60 ans par deux jeunes gens, John McCarthy et Marvin Minsky, en 1955 exactement, et qui depuis a fait des progrès considérables, et on peut dire qu'elle a transformé le monde d'une certaine façon.
Justement, parce que on entend parler malgré tout d'intelligence artificielle depuis quelques temps. Il y a une trentaine d'années, on parlait par exemple des réseaux de neurones qui étaient censés révolutionner l'informatique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi, et en dehors donc des effets de mode, pourquoi en parle-t-on autant? Quels sont en quelque sorte les progrès véritables que vous avez pu observer dans ce domaine, Jean-Gabriel Ganassia?
Alors, il y a deux choses. Il y a la conjonction d'un mouvement de fond dans la société. Nous vivons dans une société numérique. L'ensemble des échanges interhumains passe par le truchement de flux d'informations. On le sait aujourd'hui, même la radio, on est capable de réécouter des émissions. Donc ça, c'est le premier élément important. Cette somme immense d'informations peut être traitée désormais avec des ordinateurs, parce que les ordinateurs sont devenus plus puissants. Et donc, on a la capacité d'extraire des connaissances à partir de ces informations. Et on a vu des résultats qui sont tout à fait époustouflants. On peut citer, par exemple, la reconnaissance de la parole automatique, faire une machine à dicter, ou la reconnaissance faciale, reconnaître des visages. On est capable, Google a fait une machine qui reconnaît des visages entre 8 millions de personnes avec une précision de 99,63%. C'est nettement meilleur que nous-mêmes, nous reconnaissons des visages entre 300 à 400 personnes, peut-être 500, mais 8 millions, c'est une prouesse tout à fait étonnante.
Alors, l'une des questions qui était posée à l'informatique au départ par Turing était un mathématicien que l'on place parmi les pères fondateurs de l'informatique, et Turing considérait que l'une des questions importantes était de savoir si l'on pouvait distinguer une machine d'un homme. Aujourd'hui, est-ce que l'on considère encore, Jean-Gabriel Ganassia, qu'il est facile, dans certains contextes, de distinguer une machine d'un homme?
Alors, tout d'abord, Turing n'a pas exactement dit ça. Il s'est demandé ce que ça pouvait vouloir dire qu'une machine pense. Et il a imaginé un subterfuge, ce qu'il appelle le jeu de l'imitation. Vous avez un homme et une femme, l'homme essaye d'imiter la femme, et il y a un interrogateur qui leur pose des questions. Et ensuite, il a dit, peut-être si on substitue à l'homme qui imite la femme un ordinateur, et que cet ordinateur trompe l'interrogateur, à ce moment, on pourra dire que la machine est intelligente. C'est un tout petit peu subtil. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Il y a des essais qui ont été faits de dialogue avec une machine, et sur des durées extrêmement faibles, effectivement, on peut se tromper, mais c'est une question extrêmement, extrêmement difficile. Les agents conversationnels, ce qu'on appelle les chatbots, vous avez vu peut-être sur les publicités des stations de métro à Noël, sont des agents conversationnels de
peut-être
de ce type.
Éclaircir ce terme qui n'est pas forcément familier pour tout le monde, Jean-Gabriel Ganassia, un chatbot.
Alors, chatbot, hein, chat c'est bavarder, hein, bot c'est des petits robots, hein, sont des robots bavards. Et ces agents conversationnels doivent dialoguer avec nous, alors ils le font hein, de façon un peu approximative bien sûr. Et ces derniers temps, comme on a fait des progrès dans le traitement du langage naturel, donc non seulement ils reconnaissent la parole, mais ensuite ils peuvent synthétiser une voix et on peut échanger avec eux un peu comme on le ferait avec un compagnon.
Voilà, quand on a par exemple un problème avec sa machine à laver, on pourrait utiliser ce type de mécanisme pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette fichue machine refuse de se mettre en marche, Jean-Gabriel Ganassi.
Par exemple, et puis on peut demander les nouvelles, demander la météo, savoir quels sont les horaires de train.
Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et du coup, puisque vous parlez de cela, eh bien, on se dit aussi que ce type de fonction était jadis assumée par des humains. On appelait donc ce qu'on appelle en français une hotline, une ligne d'appel. On disait voilà, je ne comprends pas, ma machine ne fonctionne pas. Et on se retrouvait à dialoguer avec un être humain. Aujourd'hui, ce pourrait être une machine. L'un des fantasmes que vous évoquez d'ailleurs dans votre livre, Le mythe de la singularité, est celui du grand remplacement. On va être remplacé par des machines. Est-ce que vous êtes aujourd'hui capable, Jean-Gabriel Ganassia, de savoir si nous avons raison d'avoir peur de cela ?
Alors, première chose, je crois qu'il faut rappeler que l'intelligence artificielle a vraiment transformé le monde. Il y a énormément d'applications que nous utilisons quotidiennement. Par exemple, votre téléphone portable, si vous le débloquez avec vos empreintes digitales, ça fait appel à de l'intelligence artificielle. Le nombre d'applications de l'intelligence artificielle dans le monde contemporain est considérable. Les moteurs de recherche sont de l'intelligence artificielle. Le web lui-même est le couplage d'un modèle de mémoire qui est conçu avec des techniques d'intelligence artificielle, l'hypertexte. Mais, bien sûr, ça n'est pas parce que les machines nous dépassent sur des tâches précises qu'elles vont nous dépasser totalement. Nous avons, depuis très longtemps, dès qu'on a eu des ordinateurs, des machines qui faisaient des multiplications nettement mieux que les hommes. Il y a 20 ans, un ordinateur a battu le champion du monde au jeu d'échecs. L'an dernier, plus exactement, il y a un an et demi, en mars 2016, il a battu le champion du monde au Go, le système AlphaGo. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que les machines vont tout d'un coup prendre le pouvoir. Alors, il y a des déclarations qui ont été faites par des gens extrêmement connus, des grands scientifiques, Stephen Hawking, des grands hommes d'affaires comme Elon Musk ou Bill Gates, qui nous annoncent que c'est le grand soir, que l'humanité court à sa perte. Alors ils utilisent un terme qui vient des mathématiques, la singularité. Une singularité, c'est un point critique dans une fonction. Et ils disent, si les machines se développent au rythme actuel, tout d'un coup le statut de l'humanité va basculer et l'humanité va être soumise à ces machines.
Alors, est-ce qu'on a raison d'avoir peur de ça ?
Alors moi, je pense qu'on a totalement tort d'avoir peur de
Pourquoi
ça. Alors, c'est une idée courante. Je voudrais rappeler quand même que apparu en français en octobre un ouvrage qui est un succès de librairie énorme, Homo Deus de Harari, où il dit un tout petit peu la même chose. Il dit il y a trois grandes phases dans l'histoire de l'humanité. Il y a la première phase où les hommes sont soumis aux aléas de la nature. Ils inventent des dieux pour expliquer ce qui se produit. La deuxième phase, l'homme commence à maîtriser les choses et donc il y a une nouvelle religion, c'est la religion de l'homme, l'humanisme. Et la troisième phase, c'est aujourd'hui, où les machines vont être plus puissantes que l'homme et donc elles vont le dépasser, elles nous connaissent mieux que nous-mêmes. Et il dit, cette phase, ce sont les données qui permettent de construire ces machines. Et donc il dit, c'est la religion des données, c'est le dataïsme. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord.
Pourquoi ?
Je pense qu'il n'y a aucun... Alors quand on examine de près les arguments, et je l'ai fait en tant que scientifique, je crois que c'était une espèce de devoir moral que j'avais d'expliquer les choses. Quand on lit de façon précise les déclarations qui sont faites, que ce soit celle de Stephen Hawking, celle d'Elon Musk, celle de Bill Gates, celle des tenants de Google financent l'université de la singularité, c'est fondé sur deux arguments majeurs. C'est que d'une part, les machines sont de plus en plus rapides, c'est ce qu'on appelle la loi de Moore. Et ils ont dit, à un moment donné, le rythme de calcul des machines sera supérieur à celui de notre cerveau. Et le deuxième argument, c'est que les machines apprennent et en apprenant, elles vont avoir une quantité de connaissances qui sera supérieure à la nôtre.
Alors, plus que ça, parce que si on prend chez Yuval Noah Harari, il agite un risque supplémentaire. Il dit que finalement, ces machines pourraient être un jour dotées à la fois d'une conscience et d'une volition. Je ne sais pas ce que pourrait être la volonté d'une machine. Et par exemple, décider de se liguer pour se retourner contre nous. Est-ce que, avant même d'essayer d'étudier ce type de scénario de science-fiction, Jean-Gabriel Ganassia, est-ce qu'on peut imaginer ce que pourrait être la volonté d'une machine? Autrement dit, la volonté de s'écarter de ce pourquoi elle a été programmée. Alors, on en est coutumier si on est, par exemple, lecteur d'Asimov. Est-ce que aujourd'hui on pourrait imaginer quelque chose de ce type?
Alors, deux choses. D'une part, nous pouvons projeter sur les machines une entité, c'est ce que un philosophe, Daniel Dennett, appelait des systèmes intentionnels. Nous allons attribuer des volontés à la machine, de même que nous attribuons des émotions à la machine. Mais ça ne veut pas dire que la machine a une volonté d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle aurait une intention propre. En réalité, la machine, c'est un assemblage de dispositifs, alors, certes qui calculent très vite, qui peuvent nous surprendre. Alors, ça pose
mais si elle est
question.
Capable d'apprendre, pourquoi ne pourrait-elle pas apprendre à être volontaire?
Alors, parce que l'apprentissage d'une machine est aujourd'hui très limité. C'est ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé. C'est qu'on suppose qu'il y a un professeur qui vous donne des exemples et qui vous les étiquette, qui vous dit, par exemple, un visage, ça c'est le visage de Paul, de Pierre, etc. Et ensuite, la machine essaye d'enregistrer plein de visages, des centaines de millions d'images de visages, et ensuite, elle vous dit, avec une nouvelle photo, ça c'est Pierre ou ça c'est Paul. Mais ce que n'est pas capable de faire la machine, c'est imaginer se construire de nouvelles catégories. Au fond, dans l'apprentissage, il y a un moment donné où on engrange des exemples, et ça c'est extrêmement utile, c'est ce que font les machines, elles le font nettement mieux que nous, mais il y a un moment donné, c'est ce qu'on appelle, ce sont les révolutions épistémologiques, c'est le fait que tout d'un coup, on change ces conceptions, des concepts nouveaux interviennent. C'est ce que Gaston Bachelard appelait les ruptures épistémologiques, ou c'est ce que Thomas Kuhn appelle les changements de paradigme. Or ça, nous ne savons pas les faire, et on sait que ça joue un rôle central dans la formation, dans l'évolution.
Alors maintenant que j'ai agité un spectre, celui donc de la prise du pouvoir par les machines, je vais agiter l'inverse de ce spectre, c'est-à-dire l'incapacité des machines à faire les mêmes choses que nous. J'ai par exemple eu l'occasion d'essayer une voiture autonome. Il y a aujourd'hui des voitures qui peuvent conduire toutes seules dans certaines conditions, une route avec terre-plein central et autrement dit ou bien une nationale ou bien une autoroute. Et j'ai été frappé de voir à quel point il était heureux qu'il y ait un conducteur, en l'occurrence moi-même dans la voiture, puisque aujourd'hui une voiture ne peut pas conduire seule comme le ferait un humain. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous vendre un artifice marketing, Jean-Gabriel Ganassia, en nous faisant croire des choses qui, pour l'instant, sont loin d'exister?
Alors, je crois que c'est pour ça qu'il est important de clarifier les choses. C'est-à-dire que d'un côté, je crois qu'il faut insister, ces techniques ont une puissance considérable et elles vont transformer la vie de tous les jours. Et en même temps, bien évidemment, chacune de ces techniques a des limites et il y a un travail d'ingénierie, un travail de validation qui est extrêmement long à faire pour pouvoir mettre en œuvre ces techniques. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, le monde se transforme. C'est-à-dire que tout un tas d'activités se font différemment. Ça ne veut pas dire que l'homme disparaît, ça ne veut pas dire que les machines le remplacent, mais ça veut dire que les tâches se font différemment. La machine est un partenaire de l'homme et c'est ça, je crois, qui est important dans le monde d'aujourd'hui.
Ce soir sur France Culture, on va célébrer la nuit des idées. Il y a une autre chose que font les hommes, ils peuvent imaginer. Alors c'était la question par exemple que posait l'auteur de science-fiction Philippe K. Dick. Il se demandait si les androïdes rêvaient de moutons électriques. Est-ce qu'une machine peut imaginer, Jean-Gabriel Ganassia?
Très bonne question. Alan Turing, d'ailleurs, que nous avons cité tout à l'heure, dans son article Principe sur l'intelligence des machines, s'est posé la question. Et lui dit, une machine peut imaginer en sens où elle peut nous surprendre. Et moi-même, j'ai travaillé il y a quelques années avec des étudiants à moi sur l'imagination, la créativité d'une machine. Alors c'était dans un contexte très particulier, très limité, c'était l'improvisation en jazz. Donc nous générions automatiquement la ligne de base d'un trio rythmique. Et donc qu'est-ce que c'est que l'imagination? L'imagination est liée à la mémoire. C'est une combinaison d'éléments de mémoire qui va produire du nouveau. Et ça, nous sommes capables de le reproduire dans certaines conditions, bien sûr, avec une machine. Et c'est extrêmement important parce que notre activité intellectuelle, nous déduisons, nous induisons, c'est-à-dire que nous apprenons à partir d'exemples, mais aussi dans la vie de tous les jours, nous imaginons en permanence, nous sommes spontanément créatifs. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de reproduire cette créativité avec les machines. Alors, c'est passionnant parce que non seulement ça fait des machines qui font des choses inattendues, mais aussi ça nous permet de mieux nous comprendre nous-mêmes. Et comme je l'ai dit au début, les machines, ça nous permet de mieux comprendre l'intelligence. C'est ça que je crois qui est passionnant. C'est ça que je voudrais expliquer aux auditeurs. C'est que l'intelligence artificielle, c'est pas seulement des dispositifs qui vont nous remplacer, mais c'est surtout une aventure passionnante, l'aventure de l'intelligence et de la connaissance humaine.
Eh bien, on va poursuivre l'exploration de cette aventure en votre compagnie, Jean-Gabriel Ganassia, aux environs de 8h20. Vous serez rejoint par la philosophe Catherine Malabou, qui a beaucoup réfléchi, elle, sur ce qu'est l'intelligence. Et justement, on va essayer de voir dans quelle mesure l'une permet d'éclairer l'autre. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le mythe de la singularité. Faut-il craindre l'intelligence artificielle ? C'est publié au Seuil. Il est 8h sur France Culture. Bienvenue si vous nous rejoignez.